suite de cette journée, on a le plaisir de recevoir Mathilde Voilaise du GIP FIPAN qui va venir présenter le projet Ressources. Donc on avait tout à l'heure un peu évoqué avec David Arnoux donc le projet Ressources pour un conservatoire des gestes avec notamment Héloïse Leboucher, on se connaît bien avec Héloïse. Et donc je te laisse tout de suite la parole, Mathilde, et pour la présentation du projet.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, contrairement aux orateurs précédents, je ne viens ni du monde des métiers d'art et de la fabrication, ni du monde de la recherche, puisque je travaille pour une institution qui s'appelle le GIP FIPAN, c'est un acronyme barbare, qui signifie groupement d'intérêt public, qui est une émanation du rectorat de l'Académie de Nice et qui a pour fonction d'apporter des outils, des dispositifs et de piloter des projets de recherche et de développement en matière d'insertion professionnelle et de formation professionnelle qui porte également le CFA d'Académie, les GRETA, et qui a vocation suite à ce travail de recherche en matière de nouveaux dispositifs de formation, de nouveaux outils pédagogiques en matière de formation, de les déployer dans les établissements du réseau académique. Donc, on est partenaire du très gros projet Ressources, qui a pour but la création d'un conservatoire des gestes et savoir-faire des métiers d'art et de fabrication. Voilà la présentation, je vous ai fait la présentation rapidement du GIP FIPAN. Je suis là également avec ma collègue Alexandra Ignatovic qui travaille avec moi sur ce beau projet qu'est le projet Ressources. Alors, les parties prenantes du projet, je vais vous lire un peu le diaporama parce que je pense qu'on ne voit pas très bien. Moi aussi, je pensais que ça allait être nettement plus grand. Donc, c'est un projet qui rassemble une vingtaine de partenaires qui viennent, donc il est piloté par le chef de file qui est le campus des métiers de la mode, des métiers d'art et du design qui est basé à la manufacture des Gobelins à Paris et qui rassemble des acteurs économiques et entreprises du secteur des métiers d'art. Donc aussi bien des grandes maisons et manufactures du secteur de la mode et du luxe et des savoir-faire d'excellence représentés à la fois par le comité Colbert, mais également par des entreprises comme la maison Christophe ou Van Cleef & Arpels, mais également au niveau local et territorial par des chambres de métiers et de l'artisanat, qui sont celles, en l'occurrence, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA. Donc, eux représentent vraiment les entreprises et professionnels des métiers d'art qui ont pour caractéristique d'être soit dans des grandes maisons, soit à un niveau territorial dans des très petites unités, parfois des entreprises unipersonnelles. Donc on a une grande diversité des typologies d'entreprises de ce secteur d'activité. De l'autre côté, des acteurs du monde de la recherche avec l'École des Mines Paris et le Centre de robotique de l'École des Mines, dont Alina fait partie, que vous avez pu voir ce matin, mais également l'École des Mines Saint-Étienne, l'École des Chartes, l'ENSAD et l'Université Paris-Nanterre, et des acteurs de la formation et de l'orientation professionnelle ou de la prescription d'orientation que sont le CERFAV dont vous avez fait la connaissance de David Arnaud juste avant, le GIP FIPAN, donc l'organisation dont je relève qui est basée à Nice, le GIP Paris qui est notre homologue à l'échelle de l'Académie de Paris, mais également des établissements de formation comme le lycée professionnel du Dauphiné qui est basé à Romans, si je ne dis pas de bêtises, Romans-sur-Isère, l'Université des métiers de la Seine-sur-Mer en région PACA et France Travail qui est représentée également aujourd'hui. Donc le projet ressources qui a démarré il y a tout juste un an et qui va s'étaler sur 5 ans. C'est un projet qui est financé dans le cadre de France 2030 et donc c'est du pays à 4 sur les compétences et métiers d'avenir, donc un peu comme le projet ICAR. C'est un projet de recherche et d'innovation qui a pour finalité, comme je vous l'ai dit, la conservation et la transmission des gestes et savoir-faire des métiers d'art et de la fabrication. Donc ça, c'est un objectif, c'est un but très vaste et très ambitieux. Et pour ce faire, on va passer par des objectifs opérationnels. Donc c'est un projet qui a une très forte dimension exploratoire et de recherche. Et ces objectifs opérationnels, ça va être à la fois de développer des processus, des dispositifs et des outils qui vont permettre de documenter, d'enregistrer, de modéliser, de transmettre, d'entraîner, David l'a dit tout à l'heure, des gestes qui auront été identifiés par les experts métiers ou les experts formateurs, c'est-à-dire ceux qui doivent transmettre, comme étant critiques ou stratégiques. Donc il y a quand même un travail de recherche et de co-définition avec les experts métiers, des gestes qui seraient particulièrement, où il y a un fort enjeu de transmission. De rendre ces dispositifs et outils accessibles aux professionnels, ça c'est une dimension extrêmement importante. On va avoir tout un volet, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que les institutions de recherche qui travaillent là-dessus seraient beaucoup mieux placées que moi pour les présenter. Mais on va développer à la fois des outils high-tech, qui embarquent des technologies à fort coût, et David vous en a présenté quelques-uns, comme la motion capture, etc., mais également des outils plus low-tech. Donc il va y avoir un enjeu à la fois d'accessibilité dans les ateliers, quels sont les outils auxquels on pourra avoir accès directement depuis nos ateliers, mais quels sont aussi les outils, et ça c'est notre rôle aussi en tant que ministère de l'Éducation nationale, quels sont les outils qu'on pourrait développer, nous, ou mettre à disposition sur des plateaux techniques dans des établissements de formation, et qui pourraient ensuite être mutualisés et mis à disposition des professionnels sur le territoire, parce qu'on a des territoires de savoir-faire, où on va avoir des regroupements de métiers par territoire. Donc, développer des dispositifs et des outils, les rendre accessibles, créer une base de données, donc ça c'est vraiment le conservatoire des gestes lui-même, c'est-à-dire l'objet final, comment on crée une base de données, un centre de ressources qui archive toutes ces données, et je vois Charlie qui est là, qui représente l'école des chartes et qui nous accompagne sur ce volet justement de données numériques, d'archivage des données numériques, mais aussi d'interopérabilité entre différentes données et outils numériques. Il y a des gros enjeux derrière aussi de protection des savoir-faire, de propriété intellectuelle de ces données. Donc voilà, il y a ce gros volet. Et l'objectif quand même final de ce projet, c'est d'aboutir à de la formation à trois niveaux. La création d'un nouveau métier conservateur de gestes, c'est-à-dire que dans le cadre du projet, on va expérimenter des process et des protocoles de recherche pour la captation, l'enregistrement, la modélisation, la transmission, l'entraînement des gestes. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas ces centres de recherche qui ensuite, si on valide ces protocoles et si on en valide la pertinence et la nécessité de l'étendre à d'autres gestes et à d'autres métiers, ben, il va falloir former en fait des personnes qui seront à même de déployer ces outils, ces protocoles et ces techniques pour étendre et enrichir, venir enrichir le conservatoire des gestes. Donc un nouveau métier conservateur des gestes, la formation des experts métiers et des formateurs à ces processus et ces outils pour qu'ils puissent les intégrer dans leur dispositif de formation, leur propre dispositif de formation et de transmission. Que ce soit par exemple les enseignants, nous, les enseignants techniques dans nos lycées professionnels, mais également dans un atelier, dans une entreprise, qu'un professionnel puisse utiliser ces outils pour transmettre aux apprenants, aux collaborateurs, aussi sur des nouveaux gestes, par exemple, qui développeraient. Donc qu'il y ait une possibilité de s'approprier et de transmettre ces outils. Et enfin, la formation des apprenants eux-mêmes pour qu'ils puissent se déployer ensuite dans leur futur métier ces pratiques de documentation, de conservation et de transmission des gestes. Une approche qu'on a en commun entre tous les partenaires, c'est vraiment de partir des besoins des usagers finaux, c'est-à-dire qui d'abord, bah, les artisans, les détenteurs et les pratiquants, les praticiens des métiers d'art, donc que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les petites entreprises. Les territoires, quand on a effectivement des territoires où on va avoir des secteurs d'activité organisés, je pense par exemple à la sellerie nautique autour de la Seine-sur-Mer, où on va avoir pas mal d'entreprises de la sellerie nautique qui sont regroupées sur le même territoire, raison pour laquelle on travaille avec les chambres des métiers et de l'artisanat d'ailleurs. Les experts métiers et les formateurs, donc là en l'occurrence nous dans nos établissements professionnels, et les apprenants. Donc il y a une forte dimension de recherche et d'innovation, j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est l'entrée thématique de cette journée. Et donc on a aussi de ce fait une assez forte dimension exploratoire dans les outils et les process qu'on va développer pour l'enregistrement, la conservation et la transmission des gestes, avec une approche qu'on dit analytique, qui est portée notamment par l'expertise de l'École des Mines et du Centre de robotique de l'École des Mines, avec notamment la capture du mouvement, la modélisation du geste, l'utilisation de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain, et possiblement le développement de robots interactifs et collaboratifs. Mais de l'autre côté, l'idée, c'est d'explorer aussi l'entrée par les sciences humaines et sociales avec une méthode narrative et immersive qui est, elle, apportée par l'École des Arts Déco et l'École des Mines Saint-Étienne. À cela, comme notre objectif, c'est de produire, notre objectif final, c'est de produire de la formation, il faut s'assurer que les outils d'entraînement des gestes ou les dispositifs de formation qu'on va déployer dans les établissements, donc dans les CAP, dans les BMA, dans les différents établissements et dans les formations de formateurs ou les formations professionnelles, soient adaptés et soient efficaces du point de vue de l'apprentissage. Et donc pour ça, on a un dernier volet de recherche qui est autour de la psychologie cognitive et collaborative, qui est apportée notamment par l'Université Paris-Nanterre, et donc le volet base de données, centre de ressources, qui lui est géré par l'École des Chartes. Donc vous voyez quand même un projet qui part beaucoup de très grandes institutions de recherche et de projets de recherche. Alors pour ce faire, évidemment, le geste, c'est un mot très large qu'on n'a pas encore totalement défini au sein du projet ressources. Il faut savoir que là, on est dans le tout début de la deuxième année du projet. Hein, donc je ne vais pas venir vous présenter de résultats opérationnels aujourd'hui. On s'est basé sur 5 métiers pilotes que sont... Alors à chaque fois, c'est des métiers en fait dont on a identifié qu'ils étaient à fort enjeu. Ça peut être à fort enjeu pour des tas de raisons. Quand on prend par exemple l'exemple de la ganterie, c'est parce que la formation ganterie du lycée du Dauphiné est la dernière formation en établissement d'enseignement public qui soit dédiée à la ganterie. Et donc l'enseignante qui pilote cette formation a elle-même constitué en fait l'intégralité du référentiel de la formation pour proposer une formation spécifique sur un métier qui avait un fort besoin de renouvellement et de transmission du savoir-faire. Donc on va avoir des métiers rares ou en voie de disparition sur lesquels il y a vraiment un besoin de sauvegarde d'un catalogue de gestes ou d'un référentiel de gestes et de pratiques. Mais on va avoir des métiers à fort enjeu. Je vais vous en donner un autre. C'est celui, par exemple, de la sellerie nautique à la Seine-sur-Mer, où là, le fort enjeu, c'est que c'est un secteur d'activité qui marche bien. Les entreprises du secteur de la sellerie nautique marchent bien, mais ils ne remplissent pas nécessairement leur formation au niveau annuel complètement. Donc il y a un enjeu d'attractivité de la formation, de visibilité du métier. C'est un métier qui est mal connu et qui est peu connu, donc qui n'attire pas forcément des jeunes en formation. Et il y a à court terme un gros enjeu, c'est des entreprises unipersonnelles, et il y a un gros enjeu à court terme de renouvellement démographique, c'est-à-dire de reprise des entreprises tout simplement, de personnes qui vont partir à la retraite et qui vont avoir besoin de transmettre leur activité. Un autre exemple, et c'est le dernier que je vais donner, sur le polissage en orfèvrerie, par exemple à la maison Christophe. Donc là, on a un autre cas. On a une maison qui est confrontée, donc qui a un métier avec une problématique de turnover sur ce métier, parce qu'il y a une relative pénibilité sur ce métier. Il y a un seul détenteur du savoir-faire dans la maison qui transmet à chaque fois que quelqu'un est recruté son savoir-faire. Mais comme il y a ce turnover important, on a beaucoup de personnes qui partent. Et donc, il y a une vraie problématique à la fois chez eux de transmission de ce savoir-faire, donc de faciliter la transmission de ce savoir-faire pour tenir compte de ce turnover, mais également, possiblement, c'est une hypothèse de départ, d'amélioration des conditions de travail pour réduire la pénibilité du métier. Donc pour vous dire que on intègre également, possiblement dans ce projet, la possibilité de déployer des outils qui permettront d'améliorer, par exemple, l'ergonomie des gestes et donc de réduire la pénibilité du travail dans certains secteurs d'activité et secteurs professionnels. Donc la feuille de route du projet sur 5 ans et à 20 partenaires, elle est beaucoup plus large que ça, mais j'ai essayé de vous la synthétiser le plus possible pour en faire ressortir des éléments. Mais comme je vois qu'ici, il y a beaucoup de membres du consortium de ressources, je vous invite, n'hésitez pas à compléter mon propos s'il n'est pas suffisamment large et englobant. En 2023-2025, donc j'ai groupé les deux premières années du projet parce que avec un gros consortium comme ça et des structures qui viennent de secteurs d'activité et d'entrée et d'intérêt qui ne se connaissent pas en fait, il y a eu tout un travail la première année de se connaître, de se comprendre, de mutualiser nos attentes, nos besoins par rapport au projet. Mais on va produire des choses assez exceptionnelles, j'en suis absolument certaine. Donc ces deux premières années, elles sont consacrées à un diagnostic des usages et besoins des professionnels, travail qu'on avait un peu entamé en amont, évidemment, hein, on est parti quand même d'identification de besoins réels pour monter ce projet, mais on a voulu affiner cet aspect-là. Pour s'assurer qu'en fait les dispositifs, que l'investissement qui est mis sur des protocoles, sur des dispositifs, sur des outils, high-tech ou low-tech, servent véritablement les besoins réels des usagers finaux. C'est-à-dire qu'il y a une vie des outils du projet bien au-delà du projet et que les résultats du projet vivront en fait d'eux-mêmes et se diffuseront d'eux-mêmes dans les différents espaces que j'ai évoqués avant. Donc ce diagnostic des usages et besoins des professionnels, entreprises, territoires, formateurs et apprenants. Un travail qui est en cours de captation et de modélisation des gestes des métiers pilotes. Mais aussi, on s'est aperçu qu'il était nécessaire, et je reviendrai dessus peut-être dans la table ronde, puisqu'on a organisé une grande rencontre justement autour des usages et besoins. Cette envie de réaliser vraiment un inventaire d'outils et de dispositifs de documentation et de transmission existants. On s'est aperçu qu'on était plusieurs en fait à déjà travailler sur ces sujets, à avoir produit des choses, et donc il y a cette idée de mettre en commun, de mutualiser, pas réinventer la poudre, et d'avancer ensemble, et de voir ce qui peut dès aujourd'hui finalement être transmis ou dans les ateliers ou dans les établissements de formation. Ensuite, il y aura tout un travail de développement de prototypes et d'outils de transmission des gestes et d'entraînement des gestes. Et en parallèle, l'élaboration de blocs de briques de formation. Alors, j'insiste un peu sur le volet formation, mais nous sommes un organisme de formation. C'est notre cœur de métier. Pour ensuite finaliser et déployer ces prototypes d'apprentissage et de conservation du geste, d'abord dans les établissements partenaires du consortium, nous, côté GIP, dans les établissements professionnels de notre réseau académique, pareil pour le GIP Paris, hein, au niveau de l'Académie de Paris, et en même temps, en parallèle, les tests et la validation des parcours et briques de formation, avec pour objectif, évidemment, un déploiement et un essaimage de ces outils et prototypes, une finalisation du centre de ressources et de la base de données du conservatoire. Finalisation, ça ne veut pas dire qu'elle sera aboutie, ça veut dire qu'on aura un outil qu'on pourra venir enrichir au fur et à mesure des années de toute la matière qu'on va pouvoir apporter en déployant justement les protocoles et outils de captation et de conservation des gestes. Et enfin, le déploiement, la mise en œuvre des formations dans nos établissements de manière pérenne, mais également, possiblement, nous, via les réseaux, par exemple, interacadémiques, dans tous les établissements de formation professionnelle, des métiers d'art, mais possiblement plus largement de la fabrication, qui pourraient avoir besoin ou de redéployer ces outils. Voilà, j'ai été assez courte. Et je suis disponible pour toutes questions et surtout, je vois qu'il y a des, comme je vous disais, des collaborateurs du projet, donc ils peuvent tout à fait compléter et affiner mon propos.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde. Et donc, on a peut-être le temps d'une ou deux questions. S'il y a des réactions, des possibilités. J'ai juste une petite question par rapport au projet, savoir si vous avez déjà ciblé une technique ou des gestes en particulier, notamment pour le conservatoire des gestes, des typologies. Vous avez réfléchi à parce qu'on va, j'imagine, on peut pas aborder tout en même temps de but en blanc et tout le périmètre. Mais est-ce que vous avez, comment vous avez déroulé, disons au niveau un peu heuristique de la chose. En gros, la question, c'est vous allez démarrer par quoi
Ça a déjà démarré et je pense que là-dessus, David ou Alina ou Jean-François pourraient également répondre. L'idée, c'est qu'on n'a pas prédéfini une typologie du geste. Comme je le disais, on n'a même pas défini quel était le périmètre d'un geste. Et c'est un travail qu'on va devoir faire, évidemment, dans le cadre du projet. Chaque fois qu'il y a un travail, donc vous l'avez vu, il y a des métiers pilotes. Donc l'idée, c'est de co-définir avec les experts métiers, de co-identifier avec eux quels sont les gestes qui seraient critiques pour eux en matière de transmission. Mais peut-être qu'Alina, tu peux éventuellement compléter sur votre protocole. Qui vient juste après.
Ouais, quelle excellente transition, Alina. Oui, une question.
Après les 5 métiers pilotes, du coup, il y a une suite.
Évidemment. Les 5 métiers pilotes, c'est la dimension, je dirais, exploratoire du projet. Ça nous sert à valider des processus, des protocoles, des dispositifs, des outils, etc. Et ensuite, une fois qu'on les aura construits, qu'on les aura testés avec ces métiers pilotes, on va les déployer dans les formations et dans les établissements, correspondant bien sûr à ces métiers pilotes. Mais l'objectif, c'est ensuite de pouvoir les rendre plus génériques, en tout cas de pouvoir les essaimer et les redéployer sur d'autres gestes, possiblement du même métier, mais également, évidemment, vers des nouveaux métiers. Et nous, en tant que rectorat d'académie, vous comprendrez que, évidemment, la dimension métier d'art compte beaucoup pour nous, mais on a tous les lycées professionnels et on a beaucoup d'autres métiers de fabrication ou métiers manuels qui ne sont pas uniquement des métiers d'art. Et donc, on est très attentif à voir quels outils pourraient être redéployés sur d'autres types de formations.
lien avec l'horlogerie, ce qu'on a vu tout à l'heure, et tout ce qui est mis en place. On se dit qu'il y a complètement sa place dans ce projet-là. Et du coup, voilà, j'imagine que là, c'est un éclairage sur l'horlogerie, mais il doit y avoir d'autres initiatives. Comment en fait, ce conservatoire, à un moment donné...
Ça va être justement le rôle du conservatoire aussi, et c'est ce que je mettais, de faire un inventaire de l'existant. Il rassemble déjà pas mal de partenaires qui travaillaient chacun, je dirais, de leur côté depuis des années sur ces sujets-là. Et la richesse du consortium, qui est très grand, c'est justement de pouvoir aller trouver d'autres initiatives comme celle de Chronospedia, qui est effectivement pleine d'enseignements et passionnante pour nous, parce que c'est exactement ce qu'on imagine du point de vue du geste. Et donc l'idée, c'est évidemment d'intégrer, de faire ce travail d'inventaire aussi. Hein. Ou en parallèle aussi. Hein.
Alors, encore deux questions. Alors, une derrière et puis après.
Comment vous allez sélectionner les experts et les métiers que vous allez choisir pour dire, il faudrait trouver tel geste
Alors, on l'a fait dans le cadre du projet. C'est-à-dire qu'on a fait ce travail en amont d'aller identifier. On a fait assez simplement. On est allé chercher quels étaient les centres de formation et les experts métiers qui étaient volontaires, qui étaient en demande en fait de pouvoir travailler avec des chercheurs sur ces questions-là. Pour vous donner un exemple, on a travaillé avec un établissement professionnel que je ne citerai pas, mais sur une formation bien spécifique. On a présenté et on a proposé à l'équipe pédagogique de cette formation de les embarquer avec nous. Il y a eu un frein très net parce qu'il y avait cette dimension technologique, d'innovation technologique, qui a tout de suite créé un blocage, même si, évidemment, il ne s'agit à aucun moment de remplacer la transmission humaine par ni des intelligences artificielles, ni du robot, mais de venir mettre ces outils au service de l'humain, évidemment. Alors là, on est au démarrage du projet. Vous êtes formateur dans quel établissement, si c'est... D'accord. Pour l'instant, on est au démarrage de l'initiative. Donc, pour pouvoir monter le projet, on voulait s'assurer d'avoir des établissements de formation pilote et des formateurs et des experts métiers qui étaient volontaires, parce que c'était très important d'avoir de l'engagement. C'est invasif, hein, en fait. Ça demande de mettre du temps à disposition. Ça demande d'accepter de recevoir des chercheurs, d'autres acteurs, d'avoir du travail en plus par rapport à son travail au quotidien. Donc, c'était vraiment important d'avoir cette envie de faire. Donc, on est parti avec ce petit nombre de métiers. Nous, ensuite, en tant que rectorat d'académie, de l'Académie de Nice, on est en train de faire un travail de sensibilisation et d'information auprès de nos établissements professionnels qui ont des formations métiers d'art dans notre académie. On pourrait imaginer, moi je peux prendre votre contact par exemple pour vous associer si ça vous intéresse, pour vous associer, sachant que nous ne sommes pas les représentantes du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille, mais on peut tout à fait vous associer effectivement à ce groupe de travail un peu diagnostic des besoins pédagogiques et des formateurs.
Merci beaucoup. Il y a une dernière question.
Alors pour l'instant, on ne va pas prendre, et là Alina confirmera, pour l'instant, on ne va pas prendre de nouveaux cas pilotes, d'accord ? C'est un travail de recherche, c'est un travail de recherche de fond. On a déjà, je dirais, un agenda booké en termes de métier pilote. Par contre, nous, du point de vue, comme je vous le disais, monsieur, pardon. Comme je disais à monsieur De Vos, ça ne nous interdit pas de travailler avec d'autres équipes pédagogiques pour réfléchir surtout sur le redéploiement ensuite de ces outils une fois qu'ils ont été validés dans d'autres établissements. Bien au contraire, et plus on aura d'établissements motivés et d'équipes pédagogiques motivées, donc y compris enseignants et apprenants, pour tester les outils, les valider, les corriger, etc., plus on aura une robustesse des résultats. Donc je prendrai vos coordonnées.
Après, si je peux me permettre, en changeant un peu de casquette par rapport au campus des métiers, puisqu'il y a le campus des Gobelins et en région PACA, il y a le campus des métiers des industries créatives et culturelles également, ce sont des bons relais. Donc on est de toute façon en lien par le réseau, le RTN, le réseau national des campus sur les ICC. Ça peut être aussi un moment de réflexion. On doit se voir en avril d'ailleurs, là, tout récemment. Ça peut être un moment de réflexion sur la sensibilisation, les formations, les points de contact, être point relais. Voilà. Donc, ce réseau-là, il peut aussi être en appui sur ce type de problématique.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Mathilde. Et donc, pour la communication suivante, nous allons appeler qui vont en fait continuer, prendre la suite sur ces problématiques-là. Merci beaucoup.